Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot. Très heureuse de vous retrouver tous pour évoquer notamment ces éliminatoires africaines avec la fin de la sixième journée, alors que 15 rencontres sont programmées aujourd'hui. Et pour les Lions de la Teranga, ce soir, il va falloir s'imposer contre les Éperviers. Si les Sénégalais veulent bien sûr participer au Mondial de l'an prochain, ils ne sont que troisième de leur groupe B, derrière le Soudan et la RDC qui jouent aussi ce soir. Yoro, il n'y a pas trop le choix là. Hein,
il faut gagner, il faut déplumer les épingles.
Oh là là, bonjour Yoro Mangara.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Une petite victoire pour les éléphants face aux scorpions de la Gambie qui piquent encore. Les champions d'Afrique ont-ils perdu un peu de leur superbe alors qu'ils étreignent à peine leur titre? Et puis les Black Stars, elles brillent à nouveau. Elles ne seront pas au Maroc pour la prochaine CAN, mais le Ghana est bien parti pour rallier le mondial des Amériques, n'est-ce pas, Hervé Penaud, bonjour.
Yes, they will be there.
Oh, yes.
Un peu de bilinguisme dans l'émission.
De toute façon,
bonjour à tout le monde.
Eux, le bilinguisme, ils doivent le pratiquer au quotidien, donc ça ira bien.
Absolument.
Pour ces Black Stars.
La Black Stars.
Bonjour Nabil Djellit.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis nous avons aussi un autre et dernier sujet, un continent qui nous tient à cœur ici, évidemment c'est l'Amérique du Sud.
Ah oui.
À défaut d'enjeu crucial, une belle affiche prometteuse au milieu de la nuit, Argentine-Brésil à Buenos Aires. Les deux sélections joueront sans Messi et Neymar, blessés. En jeu, une affaire plutôt de suprématie régionale, jamais très amicale. Cette confrontation cristallise déjà les passions et des appels au calme ont été lancés aux supporters. David Finzel m'a aidé à préparer cette émission. Mathieu De Gueldre, il est revenu à la réalisation. Radio Foot, c'est parti. Qui de mieux que Youssou N'Dour et son fameux Sénégal pour ouvrir justement cette page qui est consacrée aux Lions de la Teranga, car ils ont un rendez-vous important ce soir au stade de Diam Niadio. Ils reçoivent les Éperviers du Togo que Yoro veut déjà plumer. Obligation donc gagnée, car dans le groupe B, la lutte pour la première place est enflammée au coup d'envoi de cette sixième journée. Donc le Sénégal est troisième derrière le Soudan, bien accroché avec 2 points d'avance, et la RDC, elle, qui est devant avec 1 point. Alors rappelons-le, dans ces groupes, le premier est qualifié automatiquement et le deuxième aura droit à un barrage. Donc les deux premières places sont essentielles. Et les Comores, elles sont derrière, mais elles ont le même nombre de points que le Sénégal et elles jouent ce soir. En tout cas, les champions d'Afrique de 2022 sortent d'une pâle prestation face aux Soudanais. 1-0-0, et les supporters sénégalais de Dakar, vous allez en entendre quelques-uns, ils ne sont pas très rassurés, ni même rassurants, au micro de Wahani Johnson Sambou.
Des équipes comme le Togo, c'est des équipes qui ont tendance à se transcender lorsqu'elles jouent contre le Sénégal, ce qui fait que même si on a un 11 All-Star, ça reste des matchs très compliqués à gérer. Mais je pense qu'à domicile quand même, si le Sénégal a peur du Togo, ça veut dire qu'il y a problème.
Avec ces rencontres un peu mitigées, tantôt victoire, tantôt match nul, on va s'attendre à un match difficile parce qu'il y aura un peu de pression du côté des supporters.
Les Comores, correction tout de suite, ils sont pas dans ce groupe-là.
En tout cas, Mali, les Comores.
Vous l'avez entendu, les Sénégalais, ils doutent un peu, ces supporters. Ils joueront en plus, les Sénégalais face au Togo, qui lui est quatrième justement. C'est le Togo, les Éperviers, mais avec 4 points seulement, ils sont loin. Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, a voulu, lui, se montrer rassurant avec tout le monde.
Ça va être un match difficile, mais on se doit de rattraper ce match nul contre le Soudan. C'est-à-dire que demain, on va venir pour être conquérant, pour aller prendre ces 3 points.
Alors, Kalidou Koulibaly, rassurant. Est-ce qu'ils sont rassurants, finalement, ces Lions, et c'est le plus important, Yoro,
non.
Sur la pelouse?
Non. du tout.
Enfin, une pelouse hein, synthétique.
Ouais, c'était quand même catastrophique de jouer à Benghazi sur cette pelouse. Mais bon, dans le jeu, c'était
très poussif. Oui, c'était contre la Libye.
On a joué face au Soudan, mais le Soudan, comme ils jouent leur match à l'extérieur.
Ouais, parce que tout le monde joue à l'extérieur, ou beaucoup jouent à l'extérieur ces derniers temps.
Eux, pour des raisons politiques, pas parce qu'ils n'ont pas de terrain.
Mm-hmm, oui. Ah oui, sinon, ils avaient des terrains.
Mm. Oui, mais bon. Il y a une guerre dans leur pays, alors même si ça commence à se calmer dans la capitale, apparemment. Donc, Yoro, effectivement, pourquoi ils ne vous rassurent pas, les Lions de la Teranga? Qu'est-ce qui se passe?
C'est parce que dans le jeu, c'est très poussif. On n'arrive pas à avoir ce lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Et puis, bon, Boulaïa, sur ce match-là, il a quand même mangé beaucoup d'occasions. Sadio Mané également n'était pas en jambes et c'est notre facteur X. Quand vous avez la colonne vertébrale, Koulibaly, Ganagay et Sadio qui ne marchent pas, c'est les Lions qui sont, voilà, pâles.
Mm-hmm. Est-ce que ce ne sont pas des Lions qui sont un peu fatigués aussi, Yoro?
Fatigués, peut-être. Et puis, je crois qu'ils sont là aussi depuis Sadio Mané. Depuis 2012 ou 2013, il est dans cette sélection. Ganagay, un peu avant, ça fait quand même beaucoup d'années. Ils ont fait plusieurs Coupes d'Afrique des Nations. Et je crois aussi le fait de jouer en Arabie Saoudite ne l'aide pas, Sadio Mané, parce qu'il est moins compétitif et on le voit sur certaines actions. Il a du mal à démarrer. Il n'est pas le seul. On a vu Kessié avec les éléphants. On a vu tous ces joueurs on a vu Seko Fofana même à Rennes. On a vu Riyad Mahrez avec l'Algérie.
Mm-hmm. Il y en a qui reviennent bien.
Pourquoi toi tu l'as vu? Parce que moi je ne l'ai pas vu sur le terrain.
Non, mais je disais justement parce qu'il n'a pas existé, quoi.
Nabil, en même temps, on se dit, ils ont fait 0-0, alors c'était un peu pâle comme prestation face au Soudan, mais le Soudan est justement premier de ce groupe.
Bah, le Soudan, c'est une équipe, effectivement, qui est en train de réussir, qui prend de la confiance et qui s'invite. En fait, on pensait à un match à deux entre la RDC et le Sénégal. S'inviter un troisième larron, comme on dit. Et moi, ça me donne déjà, une première indication, un premier enseignement. Quand une qualif se joue à trois, comme ça déjà, au-delà de savoir qui sont les acteurs, c'est que vous avez beaucoup moins de chances d'avoir un des quatre meilleurs deuxièmes dans cette poule. Il faut pas l'oublier, hein, parce que
c'est-à-dire
qu'il y a une répartition des poids beaucoup plus importante. Donc voilà,
non, moi j'ai là, vu le. Ils sont clairement trois pour deux places.
Bah, trois pour deux places. Alors j'ai vu le match. Alors je rejoins Yoron en grande partie. À souligner quand même l'énorme performance du gardien soudanais. Alors il y a eu des Neuer hein, sur cette fenêtre. Le gardien somalien. Pour moi c'est le héros de la fenêtre. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'était incroyable. Et ce gardien soudanais également a été exceptionnel. Et on a presque failli assister à un hold-up. Alors effectivement, le Sénégal a plutôt dominé, mais une possession stérile, quelques situations, quelques occasions. Mais les occasions qu'a eu le Soudan, c'était des occasions nettes. C'est-à-dire vraiment des occasions très nettes. Ça aurait pu être encore pire, très sincèrement. Il a manqué de l'efficacité. Ça a été une équipe qui a été poussive. En règle générale, ce genre de match, le Sénégal finit toujours par le gagner 1-0, sur un coup de patte de Mané à la fin, comme on l'avait vu une fois du côté du Mali. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres explications sur la pyramide des âges, puisque Yoro en parlait? Moi, je sais pas. Je me pose aussi des questions. Et étonnamment, Yoro, moi, celui que je pointerais peut-être le moins, alors il n'a pas été efficace, mais pour moi, il fait quand même des différences. Et je trouve qu'il a quand même été meilleur que Mahrez au Botswana. Bah, Mané, moi, je le trouve pas si mauvais que ça, quoi. Je trouve qu'il fait des différences.
Mm-hmm. Alors, évidemment, Mané cristallise aussi parce qu'on attend beaucoup
oui,
de lui.
C'est,
et de ce
c'est notre
joueur.
Facteur
bah, bien sûr.
X. S'il est sur l'échelle de 10, il est à 5, 6, c'est pas bien pour nous. Il faut qu'il soit à 8 parce que quand même derrière et ceux qui l'accompagnent, c'est notre numéro 1. Donc, il doit être à 9, voire 10 pour pouvoir tirer les autres. Ismaïl Assar et les autres comptent énormément.
Ouais, Ismaïl Assar, il a mis des bottes hein, sur ce match-là.
Ben oui.
Parce que là, devant le but, c'est une catastrophe.
Hervé, mais pourtant, on avait la sensation que cette équipe du Sénégal, elle avait engrangé quelques nouveaux et qu'elle pouvait exprimer un nouveau souffle, ou en tout cas un second souffle.
Oui.
Avec un mélange ancien-nouveau.
C'est vrai, mais alors
je pense à Ahmed Diallo.
Oui, il y avait quelques absences hein, quand même importantes
oui,
à cette
aussi.
Équipe-là, faut pas l'oublier. Maintenant, ils avaient une structure
oui,
qui était
voilà,
largement
ça.
Suffisante pour faire la différence. Alors, le petit bémol que je mettrais, c'est quand même, c'était pas simple. Parce qu'aller là-bas dans des conditions difficiles,
et encore,
avec
ils ont
un
été
public
bien reçu,
hostile.
très hostile. Parce que là, on se retrouve avec un match délocalisé, mais c'est quasiment comme s'ils jouaient à domicile.
C'est un traquenard.
C'est assez impressionnant. Ils avaient eu un soutien populaire.
Et c'est pas dans le nouveau stade de Benghazi.
Non, tout à fait. Donc c'était pas simple. Donc c'était pas non plus des conditions
le
faciles.
Le contexte n'était pas.
Et le contexte africain, pour le connaître un petit peu, parfois, quand vous avez ce type de match, faut arriver à s'en sortir d'une
et
certaine manière.
Vite.
Et finalement, ils ont pas réussi à trouver effectivement ce que disait Nabil. C'est pas faux. C'est que d'habitude, c'est des petits matchs qu'on gagnait 1-0. sur un petit coup de patte de Mané et tout. Et ça va être l'interrogation quand même sur cette équipe du Sénégal. C'est que ça n'a jamais été une équipe ces dernières années qui se distinguait par un jeu hors norme, mais par des individualités hors normes. Ce qui faisait qu'un peu comme
c'est l'équipe,
l'équipe
de France.
Voilà, c'est ça, un peu comme l'équipe
il
de France.
Il était dans un mauvais jour, comme m'a dit Patrick Julliard.
Et vous aviez les individus qui pouvaient faire les différences avec une gestion humaine bonne des éléments. Et puis là, il y a effectivement des joueurs qui sont un petit peu en dessous par rapport à ce qu'on peut espérer de leur part. Et c'est vrai que tu parlais de cet axe. Moi, j'ai trouvé que Gueye était plutôt pas mal sur ses transversales, ses déplacements de jeu. Il avait été plutôt là. Mané. Moyen plus, ça n'a pas été catastrophique.
Non,
je suis assez d'accord, ça n'a pas été Mahrez.
Je trouve qu'on exagère
ça
sur lui.
Ouais. Ça n'a pas été Mahrez, qu'on n'a pas vu.
En fait,
invisible.
Ces joueurs-là, s'ils ne sont pas décisifs, c'est qu'ils ont raté leur match. Mais c'est un peu plus compliqué.
Et il est guerrier, on sentait qu'il voulait vraiment y aller.
C'est une fraude de but.
Koulibaly, c'était un peu difficile, mais c'est pas simple non plus, des adversaires qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais c'est vrai que s'ils avaient été un peu plus efficaces de l'autre côté, ils avaient possibilité aussi de s'imposer. Au final, c'est peut-être un point qui va compter dans la qualification.
Yoro, on se souvient que c'est un peu au milieu de ses qualifications que finalement Aliou Cissé a été remercié. Il a souvent été critiqué justement pour cette façon de jouer, un peu minimaliste ou critiqué, alors qu'il avait des très bons joueurs à l'époque et beaucoup plus jeunes. Est-ce que le changement de sélectionneur finalement ne change pas grand-chose ?
Ils auraient pu laisser Aliou Cissé parce que sur la composition, il n'y avait rien de surprenant. Ce sont les mêmes 11.
C'est la sensation qu'on avait finalement.
Les Diao et autres, on l'a vu quand même que ce garçon avait du ballon sur sa première touche, cette ouverture pour Sadio Mané qui rate son face-à-face face au gardien de but. Oui, ils sont là, il a amené de nouveaux joueurs, mais pour l'instant, l'ossature, c'est celle de Aliou Cissé.
Ce qui fait que...
à considérer le Soudan quand même, qui est une équipe solide, cohérente, et puis vous avez parlé du contexte aussi autour du pays qui doit fédérer et souder les joueurs comme jamais.
Et c'est une équipe de clubs, entre guillemets. Ouais. C'est une équipe de deux clubs et qui joue, eux, par contre, dans le championnat de Mauritanie. C'est-à-dire que c'est quand même une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble. Tout à fait.
Ouais, donc voilà quoi. Après, j'ai vu leur calendrier, c'est quand même pas si simple que ça pour le Soudan.
Non, le Soudan, ça
paye ça. C'est loin d'être fait.
Le calendrier le plus intéressant, c'est la RDC. Ouais. Parce que la RDC, vous recevoir.
Alors voilà,
tous les gros.
Exactement.
Juste préciser, c'est que ce soir, dans cette sixième journée en soirée, le Soudan reçoit le Soudan du Sud. Donc,
c'est un derby, là.
Donc voilà.
Bah, ça reste un vrai derby.
Faudra pas perdre le Nord.
Attention.
Première chose, bravo Nabil. Et puis surtout, on a la RDC. Alors la RDC va jouer en Mauritanie.
Pas facile.
Ça sera pas simple.
Voilà,
non.
C'est ça.
Pas simple. Eux, c'est un match capital pour eux. Parce qu'après, ils vont tout recevoir, tous les gros.
Il y a quelques mois,
c'est un tournant pour eux, tu as raison.
C'est un tournant pour la RDC.
Il y a quelques mois, la Mauritanie avait battu la RDC en éliminatoire de la Coupe d'Afrique. Donc,
mais que joue la Mauritanie encore ?
Et la RDC a fait un match très moyen lors de son entame. En gagnant que 1-0 à domicile, c'était pas simple contre un adversaire à première vue largement dans ses cordes. Donc, ce sera pas facile. Il y a eu des matchs tellement bizarres. Alors, tu parlais du goal somalien.
Moi, c'est mon héros. J'ai tout regardé sur lui, 24 ans, j'ai tout analysé. Honnêtement, Annie, j'ai jamais vu ça.
Il a tout arrêté.
Il est exceptionnel.
Mais c'était un Alisson Becker somalien.
Neuer est africain, quoi.
Ouais. Mais même s'il a tout arrêté, je pense quand même que les Guinéens avaient le droit de marquer un but.
Un petit tacle d'Hervé
dans
cette
Guinée
émission.
Oui, la Guinée qui fait ça, c'est un désastre.
Bon, en tout cas, que souhaiter au Lion de la Teranga, qu'il s'impose pour éclaircir un peu les rangs, parce que là, à 3 pour 2 places et être les meilleurs, ça, c'est...
Moi, je crois que ça va se jouer entre le Sénégal...
Il y a 10 journées, rappelons-le.
Ça va se jouer entre le Sénégal et la RDC.
Ouais, mais attention, la RDC, c'est impressionnant. Et la RDC, le fait d'avoir réussi à rappeler des jeunes joueurs, alors qu'ils n'ont pas été titularisés la dernière fois, mais moi, pour moi, c'est un des symboles quand même de tous ces retours de binationaux. Parce qu'autant ça se passait.
Mais parce qu'ils ont fait une
souvent...
belle canne aussi, vous vous souvenez.
Oui, mais c'est vrai.
Et puis le sélectionneur, quand même, Sébastien Desabre, il y a un certain équilibre, une certaine rigueur.
Oui, c'est
aussi.
Vrai, mais c'est rare. Vous savez, si dans les pays maghrébins, il y en a beaucoup qui, effectivement, font la passerelle.
Je pensais juste à la RDC avant.
Oui, non,
et
mais chez les subsahariens, arriver à prendre deux jeunes joueurs comme Muko et Sadiki qui ont 20 ans et qui viennent de jouer
Muko
pour le pays.
Muko est très bon.
Muko et même Sadiki, c'est quand même quelqu'un de très fort qui serait normalement qui pourrait être appelé en équipe de Belgique. C'est-à-dire qu'aussi du côté de la RDC, il y a comme un retour de ce joueur et puis ça attire. C'est une équipe qui commence à attirer.
C'est une équipe d'expatriés parce que c'est vrai qu'il y a peu de pattes locales au final pour un pays quand même qui est immense et qui a un potentiel extraordinaire.
Mais c'est un potentiel.
Mais bon,
très
c'est pour dire que c'est une équipe de binationaux.
Ils joueront au même moment que le Sénégal justement et le Togo. Donc nous en parlerons demain dans Radio Foot bien sûr et le service des sports suivra toute la soirée ces matchs pour vous. Les avant-derniers, donc champions d'Afrique, inquiètent un peu, mais les champions en titre, ils ne rassurent pas vraiment non plus.
de ce Côte d'Ivoire Gambie. Une touche de balle, c'était super bien joué. Ah, il va relever le ballon pour Sébastien Haller. La tête de l'attaquant d'Utrecht qui vient ouvrir le score pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et c'est terminé au Félicien d'Abidjan. La Côte d'Ivoire récupère son trône dans le groupe F.
Deux buts en deux matchs. Des petites victoires consécutives pour les éléphants qui donc n'écrasent pas tout sur leur passage dans ce groupe F. La Côte d'Ivoire est certes en tête, mais le Gabon n'est pas très loin puisqu'ils sont juste derrière les Gabonais qui ont gagné leurs deux derniers matchs. La Côte d'Ivoire donc aussi. Et même si elle n'impressionne pas, eh bien vous allez l'entendre, le milieu de terrain ivoirien Franck Kessier. Il est au micro de Youen Gourlet et lui, il est satisfait.
C'est un championnat et je crois que le plus important c'est d'emmagasiner les points. Et on joue une qualif, il y a une qualif au bout, il y a un mondial. Deux éditions que la Côte d'Ivoire ne participe pas, donc pour nous c'est très important de participer. Donc on a fait le maximum c'est de, sur cette trêve c'était de prendre 6 points. Et nous sommes très heureux et très satisfaits d'avoir pris ces 6 points. On est champion en titre, donc tous les matchs sont difficiles. T'as l'adversaire qui lâche rien parce qu'il veut faire la surprise, ce qui est logique. Heureusement, on arrive à marquer en premier. On sait aussi jouer dans deux phases différentes. On s'est fait le dos rond et on s'est attaqué. Donc, ça nous sourit jusqu'à maintenant et on espère qu'on continuera comme ça.
Bon, ben, ils espèrent continuer comme ça. Ben nous, non, mais on leur souhaite de faire mieux quand même, non, Hervé?
Son discours est tout à fait logique. Quand vous êtes joueur, vous avez gagné 1-0.
Victoire 1-0
sur la
Gambie.
On a su faire le dos rond. Je lui rappellerai simplement qu'ils ont su et surtout sur compter sur un gardien qui a fait un énorme match. Parce que l'homme du match du côté ivoirien, ça y est, Fofana, il n'y a aucun doute. Et puis un peu les quelques ratés de nos amis gambiens qui ont eu 2-3 occasions, ultra nettes de pouvoir égaliser. Non, j'ai trouvé une équipe de Côte d'Ivoire qui était en difficulté collectivement. Il n'y avait pas grand-chose. Alors c'est vrai qu'il avait changé beaucoup de joueurs aussi par rapport entre les deux matchs. Donc c'est une équipe qui a une après-CAN un peu plus compliquée. Ça, on peut s'y attendre hein, parce que c'est jamais simple. Quand
déjà,
vous avez
la
CAN
avait été compliquée.
La CAN déjà avait été compliquée. L'après-CAN, vous savez, il faut trouver ses repères, ses marques. Après, la patte que veut poser Emers Faye, évidemment. Groupe. Donc tout ça, ça prend parfois un peu de temps. Ce qui est bien, c'est quand vous pouvez avoir un peu de temps en gagnant. Et là il a raison, Franck Kessié. Il se dit, nous, on est dans un mini-championnat, il faut gagner. Et mine de rien, vous retrouvez à la lutte avec le Gabon. Et aujourd'hui, moi, j'ai jamais eu une grande confiance dans l'équipe du Gabon, je l'ai souvent dit, parce que souvent, ils trébuchaient, là, on les attendait. On se disait, tiens, ils vont faire quelque chose, et boum, ça tombait. Et là, la victoire au Kenya, je pense que mentalement, pour cette équipe-là, ça va leur faire un bien fou. Et le fait que Aubameyang ait marqué ses deux buts, qu'avant, il n'ait pas joué, mais que ce soit aussi les autres attaquants, et il peut y avoir une sorte de, vous savez, de rapprochement psychologique ou mental, alors que pendant très longtemps, il y avait des guerres d'intérêts au sein de cette sélection, qui fait qu'à un moment, les gars se disent, mais hey, on a un match à jouer. Enfin, un match, il faudra gagner les autres, attention. Hein. Mais au moins, une possibilité de passer devant la Côte d'Ivoire, lors du match à Libreville, Libreville ou Franceville, je ne sais pas où ils le disputeront, qu'on disputera contre la Côte d'Ivoire. Là, ils sont encore dans l'aspiration de l'équipe ivoirienne.
Ville. Hein? De toute façon, ce sera dans
Ce sera dans Ville. On ne sait pas laquelle, mais ce sera. Et ça veut dire que c'est les Gabonais, aujourd'hui, ils ont le droit de rêver quand même à disputer une première Coupe du Monde. J'étais là-bas, moi, que je me souviens, lorsqu'ils rêvaient déjà une Coupe du Monde et ils avaient été battus par le Cameroun. Donc, ils auraient aussi le match décisif. Un match décisif, ce sera contre la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se planter avant, mais c'est passionnant. Avec la Côte d'Ivoire, qui aurait quand même une fenêtre de tir, ce que disait tout à l'heure Nabil, hein, sur le meilleur deuxième. Parce que là, pour le coup, eux, ils ont mangé des points.
Mais bon, après, le meilleur deuxième, c'est aussi un parcours du combattant derrière.
Mais
au moins, tu t'offres l'opportunité d'espérer.
Yoro, cette équipe des champions d'Afrique, alors on les avait vus évidemment à la peine pendant la compétition, mais qui ont aussi su finalement se relever quand il fallait, et c'était pas toujours facile dans une petite compétition ramassée sur un mois. Là, bon, alors ces éliminatoires, hein, elles durent des mois, elles s'étalent tellement, il y a 10 journées, étalées sur 5 fenêtres internationales.
Surtout, ça a quasi sur 3 ans quasiment, parce qu'ils ont fait des coupes avec la CAN, ça
paraît vraisemblable. Oui, entre-temps, ils ont fait les éliminatoires. Oui, la CAN, c'était compliqué, il y a eu la CAN et tout, mais comment vous l'avez vu cette équipe? Quel signe elle semble donner? Quels espoirs?
C'est comme la Côte d'Ivoire des phases de poule de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Tout est poussif, ils n'arrivent pas à combiner, il n'y avait rien dans le match d'hier. Singo, je ne l'ai pas reconnu. Sané l'a mis à l'amende pendant tout le match.
Impressionnant. Il s'est tellement énervé qu'il l'a chopé. Il a dit, toi, tu vas pas passer, j'en peux plus. Il lui a mis une double accélération à un moment pour le reprendre dans la surface réparation.
Mais il était face au gardien, tu vois. Mais Singo, il était inexistant. J'ai pas vu non plus Franck Kessié, qui était pourtant le capitaine, inexistant. À l'air, a marqué, mais à part le but, moi, je ne l'ai pas vu.
Donc, c'est important déjà le but, c'est capital.
Oui, ouais, mais bon, avec un bon gardien de but, je crois, il n'y a pas bu hein, non plus. Hein, parce qu'il y avait juste une manchette à faire, il ne l'a pas fait. Alors moi, maintenant, sur le plan comptable, ils sont premiers, c'est l'essentiel.
Oui, oui, c'est vrai. Nabil. Mais moi, je considère la Côte d'Ivoire comme une équipe de tournoi final, en fait. C'est-à-dire de joueurs capables d'augmenter le curseur, de se mobiliser. Il y a le côté match de gala. Bon, c'est vrai qu'on l'a vu sur la dernière CAN. Mais c'est comme ça que j'ai pas l'impression d'une expression collective aboutie, de joueurs connectés tant que ça. Ça joue comme l'équipe de France. Tout à l'heure, tu parlais du Sénégal, Hervé. Bah, la Côte d'Ivoire, il y a un peu ça. Il y a quand même des talents individuels supérieurs et capables de gagner des matchs parfois et changer le destin d'un match sur une seule rencontre. Après, il y a forcément une forme de décompression, hein, peut-être un peu inconsciente après un titre. Il y a un coach qui doit maintenant être non plus dans la performance, et mais bâtir. C'est un autre travail. Je rappelle quand même que sur les éliminatoires CAN, c'était pas non plus très glorieux. Ils ont perdu contre le Sierra Leone. Je vais pas me faire engueuler. En fait, je sais, mais Sierra Leone.
C'est la montagne.
Voilà. Chaque fois, je le sais, mais en fait, c'est une peur panique.
C'est pas grave.
C'est une peur panique. Ouais. Et la Zambie également. Il y a eu aussi deux défaites en éliminatoire CAN.
Oui, ils étaient passés.
Alors, le truc qui est intéressant et qui est excitant, parce qu'on a envie de ça quand même. On a envie de matchs à haute pression. Et on pourrait se retrouver avec une finale Gabon-Côte d'Ivoire si on continue sur cette dynamique-là. Et en plus,
ils ont le même nombre de points à ce jour. Hein.
Et donc là, ça vous met quand même une pression.
Une pression
Le même nombre de points?
Non, il y a un point de plus pour la
Côte d'Ivoire. Il y a un point de plus.
Si le Gabon vous bat, si on continue comme ça, si le Gabon vous bat, le Gabon terminera premier.
C'est le prochain match. Ils vont avoir un prochain match. Ah ouais. Il va y avoir déjà un prochain match et après ils se rencontreront. Mm-hmm. Donc là, il faut que ça soit la prochaine journée.
Parce que mine de rien, avec cette équipe du Gabon, qui marque et qui marque toujours, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui lui aussi joue un peu loin de l'Europe.
Et puis il joue gros parce que Aubameyang, finalement, il est revenu. Voilà. Et puis il y avait une forme de déception quand même sur l'histoire d'Aubameyang et du Gabon. Moi, je me souviens très bien de ses débuts. Je me vois encore le jour où il part. Parce qu'ils sont éliminés quand ils avaient perdu au tir au but.
À la CAN de 2012.
Ils étaient avec toute la famille
Gabon,
en train de manger dans un restaurant. C'était juste en face de mon hôtel. J'étais allé le voir, on avait discuté.
Contre la Côte d'Ivoire, d'ailleurs.
Ouais, c'est ça. Et puis il y avait donc Pierre, le papa, je connais très bien, évidemment.
Dans le stade.
Et c'était vraiment, il y avait un côté, il était content d'être venu, d'avoir aidé le pays. Finalement, c'était sa meilleure compétition, j'allais dire, avec le Gabon.
Ça l'a bien lancé après à Saint-Etienne, on se souvient. Il était revenu complètement lumineux.
C'était un avion. Et puis en plus, c'est un gars sympa. Mais après,
double prix Marie-Vivien Fauré. Il n'y en a pas tant que ça.
Double prix, ouais, absolument. Et puis après, il y a eu toujours cette histoire d'amour contrarié avec l'équipe nationale. On a vu, on se souvient des histoires au Cameroun avec les fameuses sorties, pas sorties, etc., etc. Tout ce qui s'est passé fait qu'il n'y a jamais eu. On s'est dit, c'est quand même ennuyeux que cette équipe qui avait Aubameyang, elle n'a pas réussi à franchir un petit palier. Et là, aujourd'hui, mine de rien, puis avec les Bouanga, avec tous les autres joueurs, Alevina, etc., etc., on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer.
Voilà, la défense peut-être.
C'est
une équipe qui est un peu coupée en deux. Je sais qu'ils cherchent peut-être des nouvelles recrues, peut-être au poste de gardien de but, je sais pas, mais en tout cas c'est une équipe qui est un peu coupée en deux. Mais c'est sûr que devant ils sont très forts. Moi je les ai vus contre le Maroc en aller-retour. Alors ils ont fait une erreur stratégique, c'est d'essayer de jouer haut face au Maroc et donc ils ont laissé des couloirs.
Surtout t'as des joueurs qui sont pas très rapides.
Voilà. Là face à la Côte d'Ivoire, je leur conseille pas de. Je dis pas qu'il faut mettre le bus quoi. Mais bon, il sera plus vigilant, quoi.
Non, mais là, la différence aujourd'hui, c'est que vous avez une équipe avec des gens très rapides devant. Donc, l'intérêt, c'est quand même de jouer un bloc un petit peu bas et puis prendre la profondeur.
Hein.
Moi, je ne suis pas surpris. Il y a un an, pile poil, au mois de mars, ils étaient ici à Amiens. Ils ont joué face au Sénégal en match amical. J'étais au stade et j'avais vu quelque chose qui naissait. C'est-à-dire un groupe des jeunes. Il n'y avait que l'éminent. Les anciens n'étaient pas là. Je me suis dit, si Aubameyang et les autres acceptent de revenir... Il y a de quoi faire une belle équipe avec le Gabon et c'est ce qui se passe
actuellement. Voilà. Et c'est vrai qu'ils ont un milieu de terrain, puisque Patrick Julliard me souffle quand même, il nous écoute parce qu'il est à fond. Il me dit Lemina Kanga, Gaylor Kanga au milieu de terrain, c'est quand même.
C'est ça. C'est bien. Ouais, Lemina était déjà de l'époque. Hein. Mm-hmm. C'est un des premiers à être revenu, des premiers à avoir répondu à l'appel. Voilà, donc c'est quelqu'un de.
Et il faut saluer le travail de ce nouveau sélectionneur, un sélectionneur local pour l'instant qui a mis quand même. les choses en ordre de marche.
C'est vrai que t'as raison, l'interrogation, elle est évidemment derrière, parce que Bruno Ekwueli Manga, il a pris de l'âge, hein, et le gardien, mais les gardiens, ça a toujours été. Bon, à une époque, ils avaient Ovono qui faisait le boulot. Et après, depuis, c'est vrai que c'est un peu difficile pour eux de trouver les gardiens idoine, quoi.
Mais bon.
Dans ce groupe, en tout cas, la Côte d'Ivoire, effectivement, et le Gabon ont 16 et 15 points, donc ils se tiennent très près, alors que le Burundi, qui a un match en retard, mais à 7 points, les autres, le Kenya, la Gambie, 6-4, donc ça veut dire qu'eux, ils ont creusé l'écart et que ça va se jouer entre deux, théoriquement.
Oui, enfin, ça va être
Même s'il restera encore 4 journées, et ça, c'est beaucoup. Continuons avec des étoiles qui se remettent à briller.
Il va chercher à nouveau la même zone. Jordan Ayew avec le premier but de cette partie. Le Ghana mène déjà 1-0 après 11 minutes. Ayew, c'est bien frappé. Et encore un coup de pied arrêté pour venir punir la défense de Madagascar. La même connexion, Jordan Ayew à la passe et Thomas Partey à la finition. Ayew, magnifique, la passe entre les lignes avec Koulous. Quelle prestation exceptionnelle de Jordan Ayew qui vient de signer sa 3e passe décisive. Madagascar subit la loi des Black Stars, 3-0.
Des étoiles à la recherche et bien de leur lustre d'antan, les revoilà ces Black Stars, alors que cette sélection du Ghana a été évincée, on s'en souvient, de la prochaine CAN, hein, elle ne se sera pas au Maroc après des piètres prestations lors des éliminatoires. Ils étaient inquiétants, mais ils le sont restés jusqu'au bout. Mais ils étaient du dernier mondial, et ça, on s'en souvient au Qatar, et ils veulent évidemment être de la fête américaine. Les Ghanéens l'ont emporté sur de faibles baréas de Madagascar, c'était 3-0 et les voilà donc installés à la tête de ce groupe I, alors que le Mali, lui, a dû se contenter d'un nul hier face à la République centrafricaine. Même si on a entendu sur l'antenne de RFI Tom Saint-Fit se montrer content de la prestation de ses joueurs en disant ils ont eu le monopole. Bon, enfin bref, en tout cas, ils n'ont pas marqué. Et le Ghana, Nabil Djellit, c'est grâce à Jordan Ayew. On se souvient que les frères Ayew, toujours là depuis si longtemps dans cette équipe, mais en même temps toujours présent et important.
Bah oui, parce que je crois qu'il y a un moment il a voulu un peu rajeunir, mais finalement c'est les tauliers qui font la différence.
Jordan a voulu rajeunir, non
le coach, le sélectionneur.
Ado.
Ouais, il avait un peu voulu rajeunir, et puis finalement il s'est rendu compte que avec des Partey, des Jordan Ayew, des joueurs expérimentés,
aussi a marqué, bien sûr.
Capables de voyager en Afrique, habitués à ce genre de match, finalement c'était pas si mal que ça. Bon, de toute façon, le Ghana, pas la prochaine CAN, c'est une anomalie, parce que quand on regarde leur 11, alors, je veux bien qu'ils soient moins bons en jeunes que par le passé, etc., il y a pas de souci, mais quand tu regardes leur 11, c'est comme une infamie qu'ils soient pas dans une Coupe d'Afrique à 24, quoi. C'est quand même surréaliste. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes un peu d'adaptation pour des joueurs qui ont évolué en Europe, comme Iñaki Williams, par exemple, qui est pas devenu Ghanéen en quelque sorte sur le terrain.
Celui de l'Athletic.
Mais là, qu'ils sont en mission parce qu'ils ont plus que ça à jouer.
Ah oui.
Et vous avez eu réponse.
Ils ont souvent été à la fête du mondial, en plus, les Ghanéens.
Ah, ils ont pas été ridicules.
Jamais ridicules.
Un peu comme le Nigeria, ils passent, ils sont là, présents.
Et puis dans une poule où effectivement leur adversaire direct, vous en avez parlé, normalement et logiquement, c'est le Mali. Ouais. Bon, les Maliens, ils ont encore fait une sortie de route, quoi.
Ils sont à 6 points. Hein.
C'est à la limite, si on se demande s'ils ne deviennent pas surcotés, les Maliens, parce qu'à chaque fois, à les attendre, ils ne sont jamais là. Donc, au bout d'un moment, on peut quand même on peut quand même se poser des questions.
Lors de la dernière CAN, peut-être pas, mais...
ils ont fait une dernière CAN qui pouvait être intéressante, mais quand vous ne marquez pas de but et que vous n'avez pas une défense solide peut craquer...
Et puis quand vous ne vous qualifiez jamais, il y a un moment, c'est pas que de la faute des autres, vous avez probablement un problème, quoi.
Exactement.
Non, mais c'est vrai, donc pour moi, c'est vrai que le Mali, c'est un vrai sujet, mais bon... non, mais c'est quand même bien de retrouver le Ghana avec des individualités, pour moi, qui sont parfois à leur poste parmi les meilleurs du continent.
Parce que là, c'est vrai que c'est une équipe sur le papier qui est assez tendre. Alors, il n'y a pas André Ayew, parce que André Ayew,
Caillou, pas revenu.
Non, je parlais de Jordan.
Jordan, c'est le capitaine. Il est devenu triple passeur. Deux coups francs qui sont tirés, mais quasiment dans la zone idéale. Deux têtes de Partey et le troisième sur Kudus. Kudus, qui est l'un des meilleurs joueurs africains aussi. Il a une qualité technique. Il a quelque chose d'incroyable. Oui, tout à fait. Après, j'ai regardé. Là, ils ont joué au Poku dans l'axe, dans une défense à trois. Salissou. Hein, plus Djikou. Donc c'est une équipe qui a un vrai potentiel et je pense qu'ils doivent être peut-être libérés de cette pression négative qu'ils ont pu avoir aux éliminatoires 4, parce que c'est vrai que c'est une déception absolument incroyable.
Énorme.
Mais en revanche, c'est une équipe en plus qui a pas mal de binationaux mettant qui sont revenus et qui sont d'un très bon niveau, notamment des Anglais. Alors Lamptey n'était pas là, mais il y a des joueurs qui sont vraiment qui ont du potentiel.
Faudra faire attention au Ghana à la CAN.
Mais
Yoro, d'autant qu'on se souvient que ces Ghanéens, déjà, ils étaient certes du dernier mondial, mais ils étaient passés par un trou de souris aussi pour se qualifier pour ce mondial.
C'est vrai.
Et finalement, après, on s'était dit, conséquence, pour la CAN, ça n'a pas passé.
Ouais, ils avaient éliminé le Nigeria en aller-retour, non?
C'est ça.
Ouais,
donc
ouais.
C'était
bon,
pas rien quand même.
Il fallait
le faire.
Et dans les noms qu'on n'a pas cités, il y a aussi cette super pioche, la Semenyo.
Bien sûr, c'est
exceptionnel en Angleterre et d'ailleurs, dans un top
ce qui est marrant, c'est que Semenyo, par exemple, lui, il s'est intégré dans l'équipe du national beaucoup mieux que Inaki Williams. Inaki Williams, pour l'instant, hein, et ça enlève rien à ses qualités de joueur, c'est une très grosse déception parce que
il n'est pas
habitué. D'ailleurs, je crois qu'il jouait pas le deuxième match. Enfin, il n'était pas titulaire parce qu'il n'est pas habitué en fait au combat africain. Parce que la différence entre des qualifications Afrique ou qualifications Europe ou les matchs qu'il a l'habitude, c'est qu'en Afrique, on joue beaucoup le duel, beaucoup du 1 contre 1, beaucoup de duels. C'est pour ça que souvent on parle de matchs un peu pas collectivement aussi abouti parce que c'est un football de duel et donc lui il n'est pas habitué à ça,
échec,
il est moins habitué à ça pour l'instant, oui, mais
échec.
Il joue et puis peut-être qu'il s'y mettra et il sera peut-être très bon en Coupe du Monde.
Tout à fait.
Euro, les Black Stars,
écoutez, moi j'ai vu déjà aller gagner sur le deuxième dans ce groupe,
c'est parce que
le deuxième c'est Madagascar. Donc là ils sont 3 pour
eux,
ça fait 15 points quand même,
15-10 derrière, ouais,
15 points. C'est plié pour eux.
Théoriquement.
Il faut pas chez eux qu'ils se relâchent, ils l'ont prouvé.
Il reste 4 matchs.
Ce serait une faute professionnelle.
Si ça ne qualifie pas là, ouais, je trouve aussi. Ben, le Ghana, normalement, c'est une anomalie déjà qu'ils ne fassent pas cette Coupe d'Afrique des Nations, avec tous les noms qu'ils ont. Moi, quand je vois hier déjà, à la 10e minute, ils devaient mener 1-0, cette tête de Salissou, ça doit faire but. C'est une équipe vraiment, vraiment adorable, parce que nous, on les appelle les Brésiliens d'Afrique. Leur maillot, leur style
de jeu.
C'est
pas les Algériens. Parce que quand vous jouez, on bat à chaque fois. Comment vous nous appelez alors?
Les super Brésiliens.
Bon.
Donc non, mais c'est vrai, il a raison. Nous, on a grandi avec le Nigeria et le Ghana. C'est en termes d'individualité, ça a toujours été exceptionnel avec des stars, des joueurs dans des top clubs. Et c'est vrai que c'est bien qu'il soit là. Et tu parlais de Kudus. Kudus, c'est un joueur qui va signer aussi dans un top club. Il est à West Ham, mais il va être dans les 6 premiers clubs. Semenyo également, ça va signer dans un top club.
C'est des joueurs, vraiment.
Moi, Kudus, il me rappelle Charles Aconor, le pied gauche, cette élégance.
Et encore, peut-être encore plus. Capable de marquer un peu plus. Alors, c'est vrai qu'il ne marque pas trop en ce moment, mais c'est, il a vraiment quelque chose. Alors là, il a marqué, tant mieux pour lui.
Un petit mot sur le Mali.
C'est vraiment la déception.
Mais oui, mais c'est surtout une grosse erreur, parce qu'ils ont les Comores juste derrière qui ont 9 points, et donc on se retrouve avec 3 équipes là qui se battent pour la deuxième place, pratiquement.
Non, c'est-à-dire que là, il faut vraiment qu'ils soient mobilisés pour viser cette deuxième place et prendre le maximum de points jusqu'à la fin. Hier, ils ont cramé leur dernier joker par rapport à la deuxième place, parce qu'hier, il fallait gagner pour espérer. Parce qu'il fallait faire quasiment un sans faute pour revenir sur le Ghana. C'est une équipe qui a pris du retard pour des questions et des raisons qu'on connaît, mais c'est tout le temps la même chose. En fait, ils préparent tout le temps leur échec. C'est dingue, quoi.
Mais c'est parce qu'il y a des limites. Moi, je pense qu'il y a des limites. Vous avez un gardien, on connaît Djigui Diarra, c'est un gardien, si vous voulez, c'est pas un gardien d'aujourd'hui, hein, on va dire, parce qu'il a un petit gabarit, c'est pas simple pour lui aussi, mettant dans les combats aériens, j'imagine. Après, c'est une défense qui est parfois un peu lourde. Au milieu de terrain, voilà. Ils avaient un milieu de terrain, évidemment, de qualité, mais ils ont jamais réussi à trouver finalement les uns et les autres comment ils allaient jouer ensemble, bizarrement.
Alors, c'est vrai qu'il y avait aussi des problèmes autour
du
sélectionneur de la fédération, il y a plein de choses.
T'as raison à 1000%. Mais c'est pas le terrain, tu peux pas être qu'à 6 points. C'est-à-dire que tu peux ne pas y arriver.
Ouais, mais je peux comprendre.
T'as tout ce potentiel-là, c'est bien que ça s'explique par un
environnement. Mais on attendait aussi, par exemple, des Sekou Keïta, etc. C'était des joueurs, des attaquants, parce que Ibrahima Koné qui revient, hein, d'ailleurs, après sa blessure. Bon, mais on voulait le joueur qui était capable à un moment de finaliser le travail que pouvait apporter le milieu de terrain. Et il aura toujours manqué aussi ce buteur, depuis des années.
Oui. Bon, en tout cas, rendez-vous demain donc dans Radio Foot pour les derniers résultats et surtout le bilan de ces deux journées 5 et 6 sur 10, bien sûr. Donc, il en restera encore 4. En attendant, on s'échappe un petit peu avec Mare Vai Subir. C'est un extrait du nouvel album de João Selva, Onda, sur la playlist de RFI.
Uma canção pra falar, poucas notas pra falar, meu bem. São palavras pra falar. Com você é importante. Tanta história pra contar. Lado a lado caminhar faz bem. Sem você não sei trilhar. Estrada aberta do presente.
Agora chego.
Guiados pelo sol.
Nunca se separa.
Eu e você.
Agora vai brilhar.
Juntos na luz do sol.
Nunca se separa.
Tão simplesmente. Para sempre vou morar, meu bem, nessa energia solar. Brilho que ilumina a gente.
Agora chego.
Guiados pelo sol.
Nunca se separa.
Eu e você.
Le Carioca, João Selva, Mare Vai Subir, c'est évidemment La Marée Monte sur la playlist de RFI. On part maintenant vers l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud avec la cancha du Monumental de Buenos Aires. Et oui, le stade habituel de l'équipe nationale qui jouera ce soir la rencontre Argentine-Brésil. Une rencontre toujours tendue, quel que soit l'enjeu. Et d'ailleurs, l'enjeu ce soir, eh bien, il est très ténu puisque les deux sélections devraient prochainement se qualifier pour le Mondial 2026 en Amérique du Sud. Il faut le vouloir pour genre d'équipe pour pas se qualifier. Les Argentins sont premiers du classement et pourraient se qualifier dès ce soir. Les Brésiliens sont troisièmes. Pour eux, ça sera évidemment un peu plus tard. Mais depuis 1930, ils n'ont jamais manqué un rendez-vous de Coupe du Monde. Alors, les hostilités ont déjà commencé, ça c'est un peu triste, en dehors du terrain. Rafinha, dans un programme télévisé, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais alors vraiment très informel, avec l'ancien champion du monde de 94, Romário, eh bien, les deux footballeurs dissertaient un peu sur, évidemment, leurs archis adversaires que sont les Argentins, et ça a donné ça.
Oui, oui, on va les tabasser, je te dis, sur et en dehors du terrain s'il le faut, et je vais marquer, et qu'ils aillent se faire voir, voilà.
Alors, évidemment, c'était pas très, très élégant ce genre de propos. Ça a été très mal pris dans la presse argentine.
C'est normal.
D'autres Brésiliens ont ajouté aussi leur grain de sel, notamment un des gardiens de la Seleção. Et vous allez entendre le sélectionneur des champions du monde, plus élégant, lui, et Lionel Scaloni, il a voulu calmer les esprits.
Je n'ai pas vu le détail des déclarations des joueurs, mais j'en ai entendu parler. C'est Argentine-Brésil, c'est important, mais ça reste un match de football. Je me souviens de l'image après la Copa América 2021 de Messi assis avec Neymar sur les marches du Maracana. C'est cette image qui doit rester. Et là, je dis tout, le meilleur joueur du monde est sans doute le deuxième meilleur joueur du monde, ensemble et amis.
Alors effectivement, c'était une très belle défaite parce qu'en plus, c'était une défaite en finale de la Copa América sur la pelouse des Brésiliens qui avaient organisé la compétition. Et on se souvient, ils étaient alors tous les deux joueurs du PSG. Mais Euro, ce qu'il y a, c'est que le match aller de ce Argentine-Brésil, alors Brésil-Argentine, a été gâché en novembre 2023. On s'en souvient où ce match avait été retardé de plus d'une demi-heure parce qu'il y avait des bagarres en tribune. Du coup, ça avait...
Le match a été arrêté.
Oui, et puis on se souvient du gardien de but argentin qui, lui, alors pour une fois, avait voulu calmer les esprits. Est-ce que vous croyez que ce soir, on doit redouter encore un contexte qui parasite la rencontre ?
Déjà que les deux pays sont des adversaires dans cette...
Ah oui, acharnés.
Je ne dirais pas plus. Mais après cette sortie de... Parce que j'ai suivi un petit peu l'émission avec Romario. Pour moi, un footballeur professionnel ne doit pas dire ça. Sur et en dehors, c'est quand même catastrophique. Sur un terrain, on peut
c'est
comprendre.
Triste.
Mais tenir ce discours-là et aller en Argentine...
Alors, il y a une photo qui circule, effectivement, et c'est celle de Rafinha pris en étau avec, je crois que c'est Otamendi, et je ne sais plus quel autre défenseur argentin. Alors, il y avait un petit contentieux.
Comme toujours. comme toujours.
C'est pas des poètes hein, sur le terrain, ouais. Les défenseurs argentins.
Ouais, mais bon, moi, je crois que ça va déborder. Quoi qu'on dise, il y aura beaucoup, 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 beaucoup de coups, beaucoup de... Parce que les Argentins, ils adorent ça.
Alors, Yoro, je vais aller dans votre sens. Les 10 dernières rencontres entre les deux équipes, 60 cartons ont été distribués. Je crois qu'il y a eu un match, alors ça fait 2 par, ça fait 6 par match, mais il y en a eu un quand même avec le record de 9 cartons. Et surtout, bah surtout entre les deux quand même, c'est que la Seleção ne gagne plus face à l'Argentine, hein, l'Albi Celeste, depuis 2019. Hervé, et ça, c'est aussi, ça ajoute au problème.
Bah, inévitablement, et puis c'est vrai qu'il y a un tel degré de tension, parce que quand vous êtes capable de dire ça un peu peinard avec votre pote Romario, pote entre guillemets, différence d'âge évidemment
mais
est forte.
Sans les réseaux sociaux. C'est irresponsable.
C'est totalement irresponsable, mais c'est la preuve quand même que c'est la preuve que quelque chose de profond. Parce qu'à un moment où il a, hop, laisser tomber la garde, c'est là où il s'est un peu lâché.
Mmh,
il s'est lâché, il a dit ce qu'il pensait et ce qu'ils doivent se dire tout simplement entre eux dans le vestiaire, juste avant un match.
Oui, mais si c'est pour se motiver, c'est différent de...
Oui, mais ça veut quand même dire que vous comprenez pourquoi il y a eu 70 cartons ou 69 cartons en image. Bon, voilà. C'est qu'à un moment, on craint des débordements. Et puis quand les joueurs disent ça, inévitablement, les spectateurs, vous vous rendez compte, il y aura des spectateurs, et j'espère que vous allez être tabassés, même si c'est sûr. Attention, il ne faut pas le prendre au premier degré, j'ai bien compris, même dans la voix, dans le ton de la voix, on va être tabassés.
Oui, c'est-à-dire rentrer dedans. Oui,
et pour les supporters. Je trouve ça quand même très très limite parce qu'il y a des gens, malheureusement, le second degré, ils connaissent moins.
Alors, nos camarades de SoFoot s'en amusent en disant alors, ça va être du football ou du MMA ce soir ? C'est la grande question de cette Argentine-Brésil. Âme sensible, s'abstenir. Bon, il y en a un qui a de la sensibilité mais qui a la tête sur les épaules, c'est Marquinhos.
Ah, je pensais que c'était moi, mais. La sensibilité, la tête sur les épaules, ça me correspondait totalement.
C'était une telle définition de Nabil, je me suis dit, tiens,
on va
mettre
après,
à l'honneur.
Nabil.
Comme ça.
Mais écoutons-le, Marquinhos, parce que lui, donc, il a plus les pieds sur la pelouse.
Argentine-Brésil, Brésil-Argentine, c'est toujours un match à part, un classique à part. Il y a beaucoup d'histoires en jeu, beaucoup de confrontations. Tous les matchs Brésil-Argentine auxquels j'ai participé ont été différents. Ils ont tous été comme ça. Un match de contact, de duel, où les deux équipes se battent sur chaque ballon sur le terrain. Je pense que ce match-là ne sera pas différent dans l'envie. C'est le bon moment pour gagner. Cela fait un moment que nous n'avons pas gagné contre eux. Nous savons que ce ne sera pas facile, que rien ne nous est donné sur le terrain. On se battra avec acharnement pour afficher notre meilleur niveau, technique, physique et mental. C'est ce visage que nous voulons montrer.
Alors, à noter quand même qu'il y a beaucoup d'accent dans ces équipes, et notamment dans l'équipe brésilienne, mais les deux facteurs X ne sont pas là. C'est-à-dire d'un côté Neymar et de l'autre Messi, qui ne sont pas là, plus bon, le gardien Alisson Becker pour les Brésiliens, Gabriel, Guimarães, Gerson. C'est vrai que ça fait beaucoup. Malgré tout, on pourrait s'attendre à une belle opposition, non?
C'est à eux d'effacer...
C'est un bon niveau quand même. En face, on a des joueurs comme Thiago Almada qui a marqué le dernier but. On a Giuliano Simeone qui arrive. Il y a du potentiel côté argentin et du renouvellement par rapport à la Coupe du Monde.
Oui, et puis on a envie de leur demander de nous offrir un spectacle. Ça effacera un peu cet avant-match. Parce que globalement, on parlait tout à l'heure du Nigeria et du Ghana, avec des joueurs qui nous ont fait rêver sur le continent africain. Bah, moi, c'est pareil. Quand j'entends Brésil-Argentine, même si c'est vrai que ça virait à des boucheries ces derniers temps, j'ai vu la finale de la Copa América, j'étais écœuré là, sous le Covid. Là, je crois que c'est Di Maria qui fait gagner l'Argentine, mais c'est tout sauf du foot, en fait. C'est pas du tout ce que tu attends, en fait. Et j'espère qu'il va y avoir un 2-2, un 3-2, mais je suis un peu comme Yoro, parce que Rafinha, là, ça déclare, elle est pas tombée dans l'oreille de sourd. C'est-à-dire que c'est un joueur en plus technique qui aime éliminer. Au premier crochet, s'il passe, le deuxième, je pense que c'est...
Je pense qu'à Barcelone, ils doivent se dire, pourvu qu'il soit pas, déjà, pas, qu'il soit remplaçant, s'il
qu'il
pouvait,
soit pas blessé.
Et puis qu'il se blesse pas, parce qu'on sait jamais, ça a pu piquer l'orgueil d'un petit arrière latéral local.
Donc, ça va pas être... Mais après, Vinicius est là, Annie.
Oui.
Bon, mais il y a quand même des joueurs de très grands. Il y a
Vinicius,
talent.
Il y a Rodrigo,
Rafinha, Vinicius. C'est surtout moi. Alors, on parlait de l'Argentine, mais moi, ce qui m'excite presque plus, c'est le renouvellement de la ligne offensive brésilienne. C'est vrai qu'elle était Neymaro-dépendante. Alors, j'espère qu'il va revenir, parce que c'est un joueur que j'adore, et j'espère qu'il se concentrera sur le tournoi aux États-Unis pour réussir une belle Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, c'est aussi l'émergence. Voilà. Enfin, Vinicius, ça fait un moment, mais Vinicius et Rafinha, dont on a parlé pas de manière très glorieuse. Mais c'est ça aussi qui m'intéresse. Est-ce que les artistes brésiliens sont un peu de retour? Je vous dis ça parce que hier, en me levant, j'étais sur YouTube, je regardais Eder, le Brésilien, dans les années 80, là, le gaucher exceptionnel.
Avec
là,
sa frappe.
Qui avait une frappe avant Roberto Carlos. Bah, c'est ça, en fait, le Brésil. C'est des joueurs exceptionnels qui marquent des générations.
Mais
et qu'on a envie de revoir.
Il était midi, 11h.
Je me suis levé vers
11h30,
honnêtement.
Ah ouais, d'accord. Non. Donc, il faut que les auditeurs sachent, quand même. Ouais. Parce que cet homme-là travaille la nuit.
Mais c'est ça, quoi, en fait. Le Brésil, c'est des artistes. Et on a envie de revoir des artistes. Et c'est vrai qu'on est un peu frustrés depuis quelques temps, parce que c'est un football qui est de plus en plus européen. Et on veut retrouver des artistes brésiliens. Et Rafinha, il a toutes ses qualités.
Oui. Et en même temps, la défense argentine et les défenseurs argentins, ils sont quand même très, très rugueux.
Non, je sais pas. Non, alors là, je sais pas ce qui vous fait dire ça. Vraiment.
Je parle même pas du gardien.
moi, je parle même pas des défenseurs, mais Rodrigo de Paul, c'est débouché, ça va faire
Paredes, il est là aussi ce soir.
Puis Paredes, le problème, c'est comme si les choses vont un peu trop vite pour lui, il a des excuses. Il est bien obligé de mettre le pied un peu en retard, quoi, ça peut arriver.
Et puis comme il n'y a pas Messi, peut-être qu'ils seront un peu moins énervés, parce que quand Messi se fait attraper,
finalement,
il y a Paredes ou De Paul qui est tout de suite en mode bodyguard.
Finalement, ce match-là m'excite plus que ce que j'aurais imaginé. D'un seul coup, je vais le regarder. Ça va poursuivre ma soirée africaine.
On est sur un épisode d'une série, quoi. Voilà, Argentine-Brésil. Mais vous m'avez donné quand même envie de le regarder.
Ouais. Tu vois, exactement comme moi.
Non, mais quand
alors,
même,
j'étais pas parti
joueurs,
pour ça.
Je le regarderai après Botswana-Somalie, parce que le gardien somalien, j'ai envie de le suivre.
Ce sera après le Maroc qui joue à 22h30. C'est le plus tardivement, je crois que c'est le Maroc.
Ce match-là, il y a une heure française.
Oui, c'est ça. Donc,
tout sera terminé.
Si on s'y met dès le retour à la maison après l'émission, je pense qu'on peut regarder du football jusqu'à 2h
du matin.
Quelle
est l'équipe sud-américaine qui vous a plu aussi, Yoro? Parce que là, on parle Brésil-Argentine, mais tout le monde... Oui. Alors, il y a la Colombie ou l'Uruguay?
L'Uruguay, oui.
Qui s'est fait battre par l'Argentine, finalement.
Elle s'est fait battre.
Mm-hmm. Moi, je préfère la Colombie.
Oui, la Colombie, sur le plan du jeu, elle est quand même...
Voilà, c'est ça, elle est beaucoup plus...
Les Cafeteros ont donné du fil à retordre à cette équipe brésilienne. Ils ont perdu dans les arrêts de jeu sur une frappe de Vinicius Contré. C'est une belle équipe, cette équipe des Cafeteros.
C'est souvent une belle équipe qui joue et entraînée par des Argentins. C'est ça qui est drôle. Ouais.
J'ai découvert un joueur à la Copa América.
Déjà, des Argentins qui sont reniés chez eux. On leur dit, il n'y a pas assez de coups.
Il n'y a surtout pas assez de place.
Non, mais je les ai vus, notamment la Copa América, où ils sont arrivés en finale contre l'Argentine. C'est une équipe vraiment très forte, très puissante. James, le meilleur club de sa carrière, c'est la Colombie presque. Même s'il a fait des grands clubs. Mais il est toujours aussi impactant. Et puis, j'ai découvert un joueur là. Je m'excuse, que j'ai pas envie de mal prononcer son nom, mais il y a un joueur qui joue à Flamengo, là, au milieu de terrain.
Ouais, j'aimerais que tu prononces son nom, s'il te plaît.
Ah,
vous pourriez prononcer son nom?
On le donnera demain.
Tenez-le demain, mais franchement, c'est un super beau joueur.
On pensera. C'est la fin de ce Radio Foot. Merci à tous. Bonne soirée football, surtout en Afrique, et on se retrouve demain.